VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 3 mars 2020, en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, au moins 20 personnes ont été tuées dans des attaques et affrontements en Ituri, dans le nord-est du pays.
Au Cameroun, le gouvernement assure avoir neutralisé 10 terroristes et dément avoir tué des civils dans l'ouest anglophone, comme l'affirment plusieurs médias en ligne camerounais.
Des experts électoraux de la CEDEAO sont attendus aujourd'hui en Guinée après le report du référendum constitutionnel et des législatives prévues dimanche dernier.
Au Sénégal, annonce hier du premier cas de nouveau coronavirus dans ce pays, un ressortissant français.
Super Tuesday, aujourd'hui ici aux États-Unis, étape cruciale des primaires démocrates pour la présidentielle de novembre.
En Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou, inculpé pour corruption, revendique la plus grande victoire de sa vie après les législatives d'hier.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En RDC, au moins 20 personnes ont été tuées dans de nouvelles violences en Ituri, dans le nord-est du pays. Le point avec Eddie Isango.
Le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, rapporte que 9 assaillants et 3 militaires ont été tués dans des affrontements, mais les miliciens ont réussi à tuer 8 personnes dans un village voisin selon les chefs coutumiers Jean-Richard et Nankondo. Vendredi, 24 autres personnes ont été égorgées dans les territoires de Djougou. Le même jour, le gouvernement avait signé un accord de paix avec la force des résistances patriotiques de l'Ituri, FRPI, une des milices impliquées dans les affrontements entre et l'Hindou. Les autorités congolaises attribuent les dernières violences à une autre milice, la Kodeko, qui prétend défendre la communauté l'Hindou. 701 personnes ont été tuées depuis fin 2017 dans cette partie nord de l'Ituri. Plus de 500 000 personnes ont été déplacées par les violences depuis février 2018, indique un rapport de l'ONU. Le document précise que 402 EMA ont été massacrés entre décembre 2017 et septembre 2019. L'ONU soupçonne que la majorité des victimes soient visées en raison de leur appartenance ethnique.
Au Cameroun, le gouvernement a assuré hier avoir neutralisé 10 terroristes séparatistes lors d'une opération militaire samedi dans une localité de l'Ouest anglophone. Et il dément avoir tué des civils, comme l'affirment plusieurs médias en ligne camerounais. 10 terroristes sécessionnistes ont été neutralisés, dont 3 femmes, lors d'un affrontement entre des militaires et des séparatistes dans la localité de Small Babanki, dans la région du Nord-Ouest, a affirmé le ministre camerounais de la Communication, René Emmanuel Sadi, dans un communiqué. Il a précisé qu'un commandant séparatiste connu sous le sobriquet de général Fireman fait partie des personnes abattues.
Des experts électoraux de la CEDEAO, selon l'AFP, sont attendus ce mardi en Guinée après le report par le président Alpha Condé d'un référendum constitutionnel controversé et des législatives prévues dimanche dernier. Suite à de vives critiques sur le fichier électoral, M. Condé a dit vendredi soir avoir accepté un report de 2 semaines de ce double scrutin, objet d'une contestation meurtrière depuis la mi-octobre. Pour l'opposition, ce référendum constitutionnel n'est qu'une manœuvre du président Condé, qui aura bientôt 82 ans, pour briguer un 3e mandat à la fin de l'année.
AFRICOM a annoncé hier dans un tweet qu'un drone américain s'est écrasé dans la région d'Agadez le 29 février dernier en raison d'une panne mécanique, et ce en plein désert dans le nord du Niger, où les États-Unis disposent d'une importante base de drones armés. C'est le 2e drone américain qui s'abîme au Niger, un pays confronté aux attaques djihadistes très meurtrières dans ses parties sud-est près du Nigeria et à l'ouest, limitrophe du Mali.
L'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a annoncé sur son compte Twitter sa démission pour des raisons de santé après quelque 3 ans à son poste. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Je dois reconnaître que ma santé ne me permet plus de subir autant de stress. J'ai donc demandé au secrétaire général de l'ONU de me libérer de mes fonctions, a écrit Ghassan Salamé, le diplomate libanais, dit avoir essayé d'unir les Libyens et de restreindre l'ingérence étrangère en Libye. Vendredi à Genève, il s'en est pris à ceux qu'il a qualifiés de cyniques qui tentent de saper les discussions entre les belligérants libyens. Monsieur Salamé a été nommé le 22 juin 2017 par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, comme son nouveau représentant spécial et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Il a succédé à l'Allemand Martin Kobler qui n'avait pas réussi non plus à ramener la paix en Libye. Ghassan Salamé dit souhaiter la poursuite du processus des négociations interlibyens. Les deux camps ont annoncé la suspension de leur participation au pourparlers. Une trêve est observée depuis le 12 janvier, mais elle est souvent violée. Les pro-Haftar ont lancé en avril 2019 une offensive pour s'emparer de Tripoli.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'épidémie de coronavirus, dont le bilan a dépassé lundi les 3000 morts, se propage désormais à un rythme beaucoup plus rapide à travers le monde qu'en Chine où elle est née. Le point avec Bagassi Koura.
Les derniers États à recenser leur premier cas hier sont le Sénégal avec un Français revenu de France, l'Arabie Saoudite avec une personne revenue d'Iran, et la Tunisie, avec un homme revenu d'Italie. La France, nouveau foyer aigu avec 130 cas, a enregistré son troisième décès. Le Louvre, musée le plus visité au monde, est resté fermé hier pour une deuxième journée consécutive. En Italie, pays le plus touché en Europe, la barre des 50 morts a été franchie avec plus de 500 nouveaux cas sur un total de 2036. Plusieurs matchs du championnat de football italien ont été reportés aux États-Unis. 4 nouveaux décès ont été enregistrés, portant le total à 6, tous survenus dans l'État de Washington. 21 cas sont recensés sur le sol américain, plus les 47 malades rapatriés de l'étranger. L'OMS a indiqué hier qu'il y avait eu en 24 heures près de 9 fois plus de nouveaux cas ailleurs dans le monde qu'en Chine. Le nombre de malades s'élève à plus de 90 000, dont plus de 4 000 cas pour la seule Chine. La Corée du Sud, deuxième pays le plus touché, a recensé près de 600 cas supplémentaires et 8 nouveaux décès avec plus de 4300 contaminations et 26 décès.
Nous reviendrons sur le premier cas de coronavirus au Sénégal avec notre correspondant Sedina Abagay en seconde partie de cette édition.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a revendiqué aujourd'hui ce qu'il a appelé la plus grande victoire de sa vie. Les élections législatives d'hier le placent en position de force pour former le prochain gouvernement et affronter le 17 mars la justice qui l'accuse de corruption. Il s'agissait des troisièmes élections en moins d'un an en Israël après deux scrutins en avril et en septembre qui n'avaient pas réussi à le départager de son rival Benny Gantz. Monsieur Netanyahou est dans l'histoire d'Israël le premier ministre qui est resté le plus longtemps en poste, avec 14 ans au pouvoir.
14 États américains tiennent ce mardi des primaires démocrates. Le Super Tuesday, comme on l'appelle ici, se tient alors que deux candidats de taille qui sont retirés et aussi son ex-rival texan Beto O'Rourke ont décidé de soutenir Joe Biden. Le point avec Abdourahmane Dia.
Après sa large victoire en Caroline du Sud samedi, les bonnes nouvelles continuent de s'enchaîner pour l'ancien vice-président de Barack Obama. Les centristes Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, qui ont jeté l'éponge, lui apportent leur soutien. Le peloton de la course à l'investiture démocrate ne compte plus que 5 candidats. Mais avant que la primaire ne se résume à un duel entre le centriste Joe Biden et le socialiste démocrate Bernie Sanders, il faudra composer avec un troisième homme, le milliardaire Mike Bloomberg. Parmi les 10 plus grosses fortunes mondiales, il a fait l'impasse sur les 4 premiers États à se prononcer dans la primaire démocrate. 1357 délégués sont en jeu, soit environ 34% du nombre total de délégués pour remporter la nomination. La Californie est l'État qui a le plus grand nombre de délégués avec 415, suivi du Texas 228 et la Caroline du Nord 110. Il faut 1991 délégués pour remporter l'investiture démocrate.
Washington ne s'attend pas à un arrêt total et immédiat des violences en Afghanistan, a déclaré lundi le chef d'état-major américain, le général Mark Milley. Il parlait après un attentat qui a fait 3 morts dans l'est du pays et l'annonce par les talibans d'une fin de la trêve partielle. Un porte-parole de ces derniers a dit à l'AFP que les forces étrangères seront épargnées, mais pas les forces du gouvernement de Kaboul. Le président afghan Ashraf Ghani a rejeté l'un des principaux points de l'accord signé samedi à Doha par Washington et les talibans, à savoir la libération de 5000 prisonniers talibans en échange de celle de 1000 membres des forces afghanes détenus par les rebelles. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Bagassi Koura.
Sifka, le premier groupe agro-industriel ivoirien, a ouvert sa deuxième usine de traitement de caoutchouc au Ghana, qui permettra de presque doubler la capacité de la précédente unité. La nouvelle usine augmentera la production du Ghana Rubber Estate Limited de 70 000 tonnes par an en 2020 à 120 000 tonnes par an en 2030 afin de répondre à la disponibilité croissante des matières premières et à la demande mondiale de caoutchouc transformé, a déclaré l'homme d'affaires Jean-Louis Billon, PDG de Sifka. Cette nouvelle usine Grel TBU va créer 204 emplois directs en 2020, allant jusqu'à 620 en 2030. Au Sénégal, la Sonatel va lancer cette année les premiers tests sur la 5G, rapporte Financial Afrique, qui précise que la décision reste soumise à l'approbation de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Le média cite Oumar Gueye, directeur de la stratégie et du développement de Sonatel, qui aurait indiqué vendredi que les travaux ont commencé. Un premier test se fera avant la fin de l'année, selon les mêmes sources. L'opérateur kényan Safaricom a été récompensé fin février par la GSMA, l'Association des opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile, à la fois pour la contribution remarquable à l'industrie du mobile qui constitue la création du paiement mobile et pour DigiFarm, son application destinée aux agriculteurs, selon Jeune Afrique.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Mouad Hadji démissionne de son poste de secrétaire général de la CAF.
Oui, le Marocain a pris les rênes du secrétariat général de la CAF le 11 avril 2019 et aura donc passé moins d'un an au sein de l'instance africaine du football. Mouad Hadji n'a pas encore donné les raisons de sa démission, évoquant des raisons personnelles. Il avait succédé à l'Égyptien Amr Fahmy. Récemment décédé avant la CAF, Mouad Hadji a été président de la commission d'éthique du Raja Casablanca entre 2009 et 2011. Il était le chef de cabinet de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Moncef Belkayat. Il a aussi été directeur de la commission de coopération à la CAF. Mouad a été nommé coordinateur général chargé de superviser les actions administratives de l'instance, avant d'être nommé secrétaire général en remplacement d'Amr Fahmy.
Leipzig s'excuse après l'expulsion de son stade de spectateurs japonais.
Oui, le club allemand a présenté ses excuses après que ses stadiers ont expulsé dimanche de la Red Bull Arena des spectateurs japonais venus assister au match de Bundesliga contre le Bayer Leverkusen sur fond de crainte du coronavirus. Malheureusement, dans un contexte de grande incertitude entourant cette question, une erreur a été commise de notre part, déplore dans son communiqué le RB Leipzig.
Budapest accueillera la finale de la Ligue Europa en 2022.
La finale de l'édition 2022 de la Ligue Europa se disputera à la Puskás Arena de Budapest. La finale de la Ligue des champions féminines se jouera la même année dans le Juventus Stadium de Turin.
Anthony Joshua défendra ses 3 titres à Londres.
Oui, le Britannique d'origine nigériane a confirmé qu'il défendrait ses titres WBA, IBF et WBO des poids lourds face au Bulgare Kubrat Poulev. Le 20 juin, Anthony Joshua avait pris sa revanche sur l'Américain Andy Ruiz, qui lui avait infligé sa première défaite chez les pros en juin dernier à New York. Cette affiche Joshua Poulev, prévue au stade de Tottenham, éloigne davantage la perspective d'un combat de réunification des 4 ceintures des poids lourds, comme l'espéraient les fans de boxe. L'autre Britannique Tyson Fury, détenteur du titre WBC, le seul qui manque à Joshua, affronte l'Américain Dayton Wilder le 18 juillet à Las Vegas. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Utah et Cleveland 126 à 113, New York et Houston 125 à 123, Portland et Orlando 130 à 107, Memphis et Atlanta 127 à 88, Miami et Milwaukee 105 à 89, Chicago et Dallas 109 à 107. Indiana et San Antonio, 116 à 111.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Sénégal, un premier cas de coronavirus a donc été confirmé ce lundi par les autorités sanitaires. Il s'agit d'un Français résident au Sénégal qui est récemment revenu de son pays. L'annonce de cette nouvelle a pris de court beaucoup de Sénégalais qui ont pris peur malgré les assurances des autorités, nous dit notre correspondant à Dakar, Sédina Abagay.
La confirmation du premier cas de coronavirus au Sénégal a installé une certaine psychose chez une partie de la population. Surpris et apeuré par l'annonce des autorités, Anta a rapidement rejoint son domicile pour prendre des mesures de prévention.
Ça m'a fait flipper, en fait. J'étais en voyage à Mour et j'étais obligée de retourner au Bercail. Ça m'a tellement fait flipper que je pouvais pas y croire. Vraiment, j'ai visité les sites, j'ai appelé mes potes, mes parents et tout. Personnellement, je vais fermer mes portes. Moi, je vais pas ouvrir mes portes aux étrangers primaires. Secondo, je vais inciter aux enfants, à mes frères et sœurs de bien veiller à leurs mains, de se laver, de bien veiller à ce que toute la maison soit tout propre, Inch'Allah.
La prévention et la sérénité doivent être les maîtres mots pour éviter la propagation du virus. C'est l'avis de Mohamed Lamine Baye qui doute cependant de la capacité du Sénégal à contenir efficacement une éventuelle menace à grande échelle.
On doit se protéger, situation nouvelle, comportement nouvel, parce que cette maladie, c'est très difficile de le canaliser. C'est très difficile parce que dans les pays européens, là, ils ont des moyens et il fait des dégâts là-bas. Bon, nous sommes des pays pauvres, raison pour laquelle nous n'avons pas suffisamment de moyens pour arrêter cette fléau.
Du côté des autorités, on se veut rassurant. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, indique que toutes les mesures nécessaires sont en place pour garantir une bonne prise en charge du malade et éviter toute propagation du virus.
Le patient est actuellement mis en quarantaine au centre de traitement du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital FAN. Ainsi, le dispositif de surveillance et de riposte au COVID-19 est renforcé et tous les moyens sont mis en œuvre pour circonscrire la maladie. Il s'agit bien sûr de la gestion des cas contacts, particulièrement de ses deux enfants et de son épouse.
Pour rassurer les populations, les autorités ont également mis en place des mesures préventives allant des numéros verts à une équipe d'intervention mobile chargée de l'évacuation des éventuels cas suspects. En attendant, l'évolution de l'état des personnes ayant partagé le vol Paris-Dakar avec le patient infecté est suivie de près par les autorités sanitaires. À Dakar, Sédina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Inquiétude également au Nigeria, mais aussi panique suite à la mise en quarantaine de 43 personnes dans les états de Lagos et d'Ogun et de 4 Chinois dans l'état de Jos pour tenter de maîtriser la menace du coronavirus dans le pays. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Muhammadu Buhari, le président nigérian, demande à ses compatriotes de ne pas céder à la panique après la confirmation du premier cas de coronavirus sur le sol nigérian. Dans les rues, l'inquiétude est perceptible.
Beaucoup ont peur parce qu'ils ne font pas confiance au gouvernement. Ils se demandent si le gouvernement va agir efficacement pour maîtriser la menace. Ce virus a déjà tué beaucoup dans les pays développés qui ont tout le matériel médical sophistiqué. Et nous, ici au Nigeria, on se bat toujours avec le matériel médical de base.
Les responsables concernés du secteur de la santé doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire quelque chose. Comme ça, ils pourront vaincre le coronavirus, comme on avait fait avec Ebola.
Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Nigeria, Dr. Peter Clement, a déclaré que le gouvernement devrait fournir rapidement des informations précises aux communautés rurales afin qu'elles sachent comment se protéger. Il s'est également déclaré préoccupé par le fait que le virus pourrait se propager par le biais du personnel non formé du secteur privé de la santé qui n'est pas préparé ou ne connaît pas grand-chose du virus. La centrale syndicale des travailleurs du secteur de la santé craint elle aussi une contamination du personnel de santé par manque d'équipement adéquat. Le docteur Francis Fadouyelech, leader syndical.
C'est malheureux que le COVID-19 soit finalement arrivé au Nigeria. La préoccupation majeure du syndicat des travailleurs de la santé est que nos membres sont directement impliqués dans le traitement. Nous avons averti nos membres pour leur propre sécurité. Nous avons également demandé au gouvernement des différents États de trouver les équipements nécessaires pour la protection contre les infections.
Les autorités sanitaires du Nigeria affirment avoir intensifié leurs efforts pour détecter et contenir le nouveau coronavirus dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Le ministre de la Santé, Osadi Ohanire, rassure.
Notre attention se porte sur les quatre grandes villes avec des aéroports internationaux, Lagos, Abuja, Port Harcourt et Kano. Notre niveau de préparation s'améliore de jour en jour. Les agents de santé au niveau des points d'entrée sont en formation sous la direction de l'Agence nationale pour le contrôle des maladies infectieuses.
L'Agence nationale pour le contrôle des maladies infectieuses a émis un avis de santé publique pour informer les Nigériens sur les symptômes et les mesures préventives et a fourni un numéro gratuit à titre indicatif. Parallèlement à l'intensification du dépistage au point d'entrée, en particulier dans les aéroports, les autorités ont établi des capacités de tests dans 4 laboratoires. La surveillance est aussi étendue pour assurer le suivi auprès des voyageurs venant de pays touchés par la maladie jusqu'à 14 jours après leur arrivée au Nigeria. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, les autorités responsables de la sécurité publique sont en guerre contre les bandits suite au viol et à l'assassinat de 2 femmes en moins de 2 semaines dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Le gouvernement a ainsi renforcé les contrôles de sécurité selon notre correspondant sur place, André Kodmadjingar.
On avait fait la situation d'insécurité, surtout dans la capitale, et on s'est rendu compte que la plupart des cas de meurtres ou d'attaques causées par les clans d'eau.
Mohamed Abalissa, la ministre en charge de la sécurité publique, a décidé de limiter les activités des clans de main, les conducteurs de mototaxis. Après 23 heures, aucune mototaxi n'est autorisée à circuler dans la capitale N'Djamena. Une décision à l'emporte-pièce, estime les citoyens.
Moi, en tant que citoyen, je dis non à cette déclaration.
Nous autres, on n'a pas un engrais. Des fois, notre femme est malade. Et puis on prend le cadeau, on part à l'hôpital. Mais ça, quand on demande là, on fait quoi?
Il y a beaucoup de gars qui ont des diplômes et qui sont des pères de famille. C'est avec ça qu'ils se débrouillent. Parce qu'il y a beaucoup parmi eux qui ne sont pas intégrés. Ça va créer des délinquances. Ils vont tous garer les motos. Nous qui se débrouillons au bar là, ils vont nous violer partout encore.
Par exemple, ceux qui quittent le boulot à partir de 23h et autres pour regagner leur domicile. Il y a certains aussi qui ont le voyage de retour. Mais quel moyen va les déplacer?
Le ministre Mohamed Abalissa la réchauffe également d'autres mesures tombées en désuétude comme l'interdiction sur l'ensemble du territoire national de la mendicité, de la circulation des engins en situation irrégulière et des véhicules aux vitres teintées. Pour Max Loualngar, président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, cette mesure est une restriction des libertés publiques, notamment la liberté d'aller et de venir.
La loi fondamentale dispose que l'exercice des libertés publiques est reconnu à tous dans les limites qui leur sont concédées par la loi. Le ministre de l'Intérieur a beau être ministre, il n'en a pas le pouvoir. À ce que je sache, nous ne sommes ni dans dans un état d'urgence ni un régime d'exception pour que les libertés soient réduites de cette manière.
Le ministre en charge de la sécurité publique, Mohamed Abali Sala, justifie son acte.
Toutes ces mesures sont prises dans l'intérêt de la population et c'est pour leur sécurité. Nous pensons que ces pratiques créent de l'insécurité. Cette insécurité, c'est notre travail de le contenir. Et ce travail doit se faire sans distinction, je dis bien sans distinction.
À l'initiative de l'artiste musicienne Matibé Geneviève alias Ndjenompa, les femmes artistes dénoncent et interpellent la population tchadienne dans une chanson de circonstance suite à l'assassinat de deux femmes dans la capitale. Elle explique sa vision pour lutter contre cette forme d'insécurité dans la ville.
Je me dis que ça peut être moi, ça peut être une femme dans mon entourage, ma mère, ma soeur. Et pour nous, c'est de sensibiliser et dénoncer les gens. C'est de parler vraiment à ces hommes agresseurs, à ces hommes violeurs-là que le paradis se trouve au pied des femmes. Donc, aller jusqu'à violer une femme, la tuer, c'est l'extrême. Donc.
André Kodumatingar Ndjamena pour VO Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs associations et organisations de la société civile ainsi que le gouvernement provincial sont en train de mener des actions de solidarité. Ils collectent des produits de première nécessité en faveur des orphelins et des survivants des massacres dans la région de Beni. Charlie Kasereka, notre correspondant à Goma, fait le point.
Le mouvement citoyen Lucha a été le premier à s'engager dans cette dynamique avec des vivres pour les militaires au front. Actuellement, il collecte des vivres et autres produits pour des personnes nécessiteuses de la région de Beni. Espoir Ngaloukié, activiste du mouvement Lucha.
Mais nous, en tant que peuple, c'est pour montrer la solidarité nationale. Avant 2014, la population de Beni n'avait pas besoin d'assistance, n'avait pas besoin des ONG. Et jusque-là, la Lucha, nous avions récolté 876 050 francs congolais et 2793 dollars américains. Et plusieurs sacs de chaussures qu'on va donner aux jeunes, aux enfants. Nous allons clôturer notre campagne le 15 mars.
La question de l'insécurité à Beni touche au plus haut niveau les Congolais de Goma et d'ailleurs, plébiscité ambassadeur de la paix de l'UNESCO et de la bonne volonté de la Croix-Rouge de la RDC, la méga star de la musique congolaise Ngiama Makanda, dit Weranson, s'est associé à la campagne avec des concerts caritatifs ici à Goma.
Tout l'argent récolté pour cette prestation ici à Goma est destiné à soulager un tant soit peu la souffrance de nos frères de Beni.
Lors de son concert ce dimanche, organisé par le gouverneur de la province du Nord Kivu, Karlin Zanzu Kasivita, plusieurs notables, hommes d'affaires et autorités politiques ont réussi à réunir environ 64 000 dollars américains pour le début de cette campagne. L'autorité provinciale veut l'élargir à toute l'étendue de la RDC. Hassani Fatouma, ministre provincial des Affaires sociales.
Une question se pose. Allons-nous croiser les bras en abandonnant ces familles, vivre dans de telles conditions pendant que nous les représentons dans toutes les institutions? La réponse est non. Et de ce fait, nous devons faire quelque chose. Tous ensemble, et mettions nos efforts ensemble comme une seule personne pour collecter des fonds pouvant sauver ces vies humaines en détresse.
Une action saluée par les ressortissants de Beni qui souhaiteraient voir une action humanitaire élargie. Ils insistent sur le retour de la paix dans leur région.
Pour nous, c'est un sentiment de satisfaction que Beni n'est pas oublié et que Beni est dans le cœur de tous les Congolais. La grande préoccupation de Beni, c'est que les massacres s'arrêtent.
La région de Beni, 350 km au nord de Goma, chef-lieu de la province, vit depuis 2014 une insécurité quasi permanente avec les massacres des civils par armée blanche. La société civile locale estime à ce jour plus de 2500 civils tués et plusieurs autres portés disparus. L'armée congolaise accuse la rébellion ougandaise du ADF de ces massacres des civils dans cette région. Charlie Kasereka, Goma pour VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Noutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Alveson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.